Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. Comme tous les soirs dans nos lectures en liberté, nous reprenons ce soir un passage de Lambeau de Charles Juliette. Tu n'appartiens à aucun de ces trois groupes et tu en souffres. Pour autant, tu ne voudrais pas être de ceux qui ont renoncé, n'attendent rien de l'avenir, tuent le temps et leur ennui en dormant, en jouant à la belote, en feuilletant des magazines où s'exhibent des femmes nues. Lorsque tes camarades parlent d'un chef ou d'un professeur, il est rare que tu sois d'accord avec ce qui se dit. Mais tu te retiens d'exprimer ce que tu penses. Tu reconnais que s'ils sont si nombreux à être d'une même opinion, alors que toi tu ne la partages pas, c'est la preuve que ta perception des êtres est erronée. Cependant, une fois, il se trouve que les faits viennent confirmer ce qu'obscurément tu pressentais, t'amène à conclure que tu n'as pas forcément tort de penser ce que tu penses. Un adjudant est arrivé dans votre compagnie, étonnamment jeune, ancien enfant de troupe, il vous traite en copain et fait très vite la conquête des quatre sections. Tous sont admiratifs, lui parlent à cœur ouvert, se réjouissent d'avoir un chef aussi débonnaire et compréhensif. Mais toi, un instinct t'avertit que tu ne dois pas te fier à lui, qu'il te faut demeurer sur tes gardes. Deux mois plus tard, alors qu'un soir il se promenait en ville, il a aperçu quatre élèves ayant fait le mur. Au lieu d'ignorer ce qu'il avait vu le lendemain, il a rédigé un rapport et les quatre élèves ont été immédiatement renvoyés. Les cours d'instruction militaire, la discipline à laquelle vous êtes soumis, l'existence que vous menez, visent à vous façonner, à imprimer en vous un certain état d'esprit. Quelque chose en toi que tu ne saurais nommer t'impose de te préserver, de rester lucide, de ne pas te laisser influencer par ce qu'on vous inculque. Souvent, tu te fermes, te retires au plus reculé de toi-même, là où nul ne peut t'atteindre, faire pression sur toi, te manipuler. Et avec mauvaise conscience, honte, tu t'avoues en secret que tu as l'âme d'un rebelle. Te surveiller, te réprimer, finir par ne plus exister que comme à côté de toi-même. Un toi-même où s'installe une gêne, une sorte de malaise ténu, dont tu as une vague conscience et qui ira d'ailleurs s'accusant au long des futures lentes années. Le malaise de n'être que rarement à l'unisson, de te sentir coupé des autres, de t'éprouver différent. D'où une mélancolie profonde qui plaque son voile de morne désolation sur tout ce qui t'environne, tout ce qui t'advient. Mais tu ne veux pas te laisser sombrer. Ta passion pour le rugby a supplanté ta passion pour la boxe. Tu es le capitaine d'une équipe qui ne remporte que des victoires, ce qui vous vaut à l'intérieur de l'école une indéniable considération. Quand le colonel t'aperçoit dans la cour, il arrive qu'il t'appelle pour te féliciter et te prodiguer ses encouragements. Pendant les matchs, tu te livres à fond, oublies tout. Et lorsque vous êtes de retour au vestiaire, tu es à ce point vidé que tu dois t'accorder quelques minutes de récupération avant d'être à même de délacer tes chaussures. Ces moments où tu t'entraînes, où tu joues, les seuls où tu adhères à toi-même. Les seuls où tu échappes à ce qui te tourmente. Les seuls qui aient le pouvoir de t'arracher au temps. En dehors de ces moments, tu traînes ta mélancolie. Te surveiller, te réprimer. Constamment, tu es en porte-à-faux. Alors tu te détournes de ton quotidien et tu attends. Une attente douloureuse qui mobilise tout ce que tu es, te maintient dans une perpétuelle tension. Ce que tu attends, tu ne saurais rien en dire. Tu attends que ta vie change, que cette avidité de vivre qui maintenant te possède trouve à s'assouvir, que cet enfant perdu qui t'accompagne de ses sanglots soit enfin consolé. C'est la première fois depuis les obsèques de ta mère que les quatre enfants se voient réunis, et réunis en présence du père et de quelques membres de la famille. L'occasion de ces retrouvailles, le mariage de la fille. Cette sœur, tu l'as rencontrée à plusieurs reprises, mais tes frères te sont totalement inconnus. Ce jour-là, tu as un vif désir de faire leur connaissance, d'apprendre ce qu'ils font, ce que furent leur enfance et leur adolescence. Mais au cours de ces deux journées, les circonstances ne permettent pas que chacun se raconte aux deux autres. Quand vous vous séparez, tu n'en sais pas plus sur eux qu'avant de les avoir retrouvés. Quelques mois plus tard, ils ont émigré au Canada où leurs routes ont divergé. Puis, l'un après l'autre, ils se sont fixés en Californie et tu ne les as revus que de loin en loin. Pendant ton avant-dernière année, pour une raison inexplicable, la discipline s'est relâchée et les trimestres t'ont paru moins longs. Mais à la rentrée suivante, le changement a été brutal. Venu de la Légion étrangère, votre capitaine est un excité, une grande gueule, et toute l'année, il s'emploie à méthodiquement vous en faire baver. Insultes, paroles humiliantes, menaces de renvoi, revues incessantes, marches forcées, il ne vous laisse aucun répit. Comme à ton habitude, tu t'appliques à passer inaperçu, mais un jour, ton regard te trahit. Tu n'es pas assez attentif à toi-même pour empêcher tes yeux d'exprimer ce que tu ressens, ce que tu penses. Lors d'une revue, en passant devant toi, il lit en eux que tu le prends pour un bouffon. Et à partir de cet instant, il ne cesse plus de te harceler, t'humilier, te rendre la vie impossible. Une année sombre que tu termines en étant nerveusement épuisé et qui laisse en toi de profondes blessures. Tu passes ta dernière journée avec la femme du chef. En la quittant, tu lui exprimes ta gratitude pour l'amour qu'elle t'a donné et pour tout ce que tu lui dois. Le cœur lourd, incapable de la consoler, tu brusques les adieux et tu t'enfuis. De retour à la caserne, tu rends ton paquetage et revêts des effets civils. Quel tumulte en toi quand tu franchis le poste de garde ainsi vêtu. Et ton étonnement à saluer le sous-officier d'un signe de tête sans avoir à présenter ton titre de permission. Tu te diriges vers le centre-ville. Les premières lumières qui s'allument, la fraîcheur qui tombe, les feuilles mortes sur les trottoirs, tu aimes cette saison. Mais ce qui la consume te pénètre plus que tu ne voudrais. Ces ciels voilés ou hachurés de suie, les arbres qui se dépouillent, la nature qui lentement meurt. Tu ressens ce déclin dans tout ton être. Et l'angoisse qui t'en vient se fait plus lourde à chaque crépuscule. Au sortir de la papeterie sur le cours Mirabeau, tu restes un long moment à ne pouvoir faire un pas. Tu prends conscience que ta vie d'enfant de troupe s'achève et avec elle, ton adolescence. La femme du chef, tes amis, tes copains, tes chefs, tes professeurs, cette ville et cette région que tu as fini par aimer, les bons et les mauvais moments, les émois et les déceptions, les révoltes et les découvertes, les jours d'ennui et le bonheur des cours de français, les caresses de l'amante et les insultes du capitaine. Tout cela qu'il te faut maintenant laisser derrière toi et qui va se trouver exposé à la lente corrosion du temps. Si souvent tu as été tendu vers ce jour du départ, si souvent tu as imaginé la joie que tu éprouverais, tu es là comme pétrifié, terrassé par le poids de ces années qui ont été pour toi d'une telle importance. Non la joie de la délivrance, mais un lourd, un profond chagrin. Médecin, enseignant, écrivain, selon toi, les trois plus belles professions qu'on puisse imaginer. Soigner les corps et les psychés. Former de jeunes esprits, leur apprendre à penser, les préparer à la vie. En écrivant, se délivrer de ses entraves et par là même aider autrui à s'en délivrer. Parler à l'âme de certains. Consoler cet orphelin que les non-aimés, les mal-aimés, les trop-aimés portent en eux. Et en cherchant à apaiser sa détresse, peut-être adoucir d'autres détresses, d'autres solitudes.
Et de vêtements.
Lecture en liberté, Denis Flageul.
Lambeau, Charles-Juliette. En raison de ta situation, tu ne peux envisager d'être un jour un enseignant. Et ce que tu es, non moins que ces mêmes circonstances, t'interdisent de devenir un écrivain. Mais tu vas entreprendre des études de médecine et tu mesures ta chance. Tu entres à l'école du service de santé militaire de Lyon, déterminé à travailler autant que tu le pourras. Une puissante motivation t'anime, dans quelques années, pouvoir apaiser les souffrances de ceux et de celles qui ne savent plus vivre, se sentent tirés vers la mort, ceux et celles en qui tu te plairas à reconnaître cet inconnu dont tu as reçu la vie et à laquelle tu songes si souvent. Les journées sont rudes. Du lever à cet instant où tu te retrouves dans ta chambre en début de soirée, tu n'as pas une seconde à toi. Tu souffres d'être coupé de toi-même, de devoir étouffer ta vie intérieure, refouler ces questions qui continuent de te harceler. Mais parfois celles-ci se font plus véhémentes. Et tu ne peux plus les ignorer, alors tu restes à ne rien faire, le regard dans le vague, conscient que tu perds ton temps, malheureux de ne pouvoir te contraindre à travailler. Lorsque tu assistes à un cours, souvent ton attention s'échappe et il arrive par exemple qu'à une complexe formule de chimie organique se trouvent intégrés des mots montés du murmure intérieur et que tu voulais ne pas perdre. L'école possède un embryon de bibliothèque et tu t'y rends le plus en plus souvent, mais comme en un mauvais lieu. Ne sachant que lire, tu prends un roman au hasard. Chaque fois que tu ouvres un livre, c'est comme si tu allais au-devant d'une merveille. Chaque fois, tu es terriblement déçu, mais ces déceptions ne réussissent pas à te détourner de la lecture. Au contraire, elles ne font qu'attiser ta soif. Les mois passent. En dépit de tes remords, de tes résolutions, de la conscience que tu as de courir à la catastrophe, tu consacres de moins en moins de temps à l'étude et te réserves des heures où tu te plonges dans un roman, où tu griffonnes des notes dans un carnet. Jamais tu n'as connu une telle angoisse. Ta volonté ne peut rien contre ce besoin qui s'est emparé de toi et qui vient tout bouleverser. Un besoin de tu ne sais quoi, mais qui te pousse à réfléchir, lire, t'interroger, te demander, entre autres choses, si la vie a un sens. Tu redoubles ta seconde année. Un jour, à l'approche des examens, en toute inconscience, tu décides de quitter cette école, afin de pouvoir fonder ta vie sur l'écriture. Un médecin compréhensif permet que tu sois élargi et dégagé de toute obligation envers l'armée. Ainsi es-tu réformé à vie pour inadaptation à la vie militaire. Il n'empêche que tu as un sentiment d'échec et qu'il t'est pénible de penser que tu ne mèneras pas à terme les études que tu avais entreprises. Tu quittes l'école comme un voleur, sans prévenir personne, sans dire adieu à tes amis qui pourtant te sont chers. Pendant longtemps, tu en auras des remords. Mais tu n'aurais su leur expliquer pourquoi tu partais. Et si tu en avais été capable, tu aurais craint qu'ils ne se moquent de toi, déplorent ouvertement la décision irréfléchie que tu avais prise, ne te fassent sentir qu'ils te considéraient comme un irrécupérable hurluberlu. Libéré après 11 ans passés sous l'uniforme, une véritable ivresse à te dire que ta vie va commencer. Tu en éprouves une joie qui pendant plusieurs semaines te transforme. Tu ne pouvais certes te douter que s'amorçait pour toi une crise qui allait durer quelques 20 ans. Tu choisis de demeurer dans cette ville où tu deviens professeur de physique-chimie. Tu n'as connu jusque-là que ton village, la caserne d'Aix, l'école de santé, et tu as toujours vécu au sein d'une famille ou d'une collectivité. Totalement inadapté, tu découvres ce que signifie être seul et être libre. Du moins libre de certaines contraintes. Entièrement assumé au long de tes années militaires, il te faut désormais apprendre à vivre dans cette cité où tu te sens perdu. Et bien évidemment, tu dois faire face à toutes sortes de nécessités et d'obligations dont tu n'avais jamais tellement soupçonné qu'elles existaient. Les circonstances ne t'ont jamais permis de rester seul dans une pièce pendant plusieurs heures d'affilée, et maintenant c'est un luxe que tu peux t'offrir. Au début, à tout instant, tu regardais ta montre, tu craignais de rater un rassemblement, tu redoutais qu'on vienne te chercher et qu'on t'engueule pour t'être ainsi soustrait à ce que prévoyait le programme de la journée. Mais non, nul coup de sifflet, nul sous-officier surgissant pour te rappeler à l'ordre. Plus tard, ces après-midi où tu avais pu rester seul en tête-à-tête avec toi-même dans le silence d'une pièce, savourant le fait de disposer d'une plage de temps que tu pouvais allonger à loisir, tu te les rappelais comme l'une des plus étonnantes choses que la vie t'ait offerte. L'uniforme que tu as quitté, tu continues à le porter à l'intérieur de toi, et quand il t'arrive de croiser un gradé, ton cœur se met à battre la chamade. Dans la rue où tu marches avec la crainte d'être pris en faute, à tout instant, tu vérifies si ta veste et le col de ta chemise sont bien boutonnés. Il t'a fallu un long temps avant que tu oses entrer dans un café, un temps encore plus long avant que tu ne te risques à pousser la porte d'une librairie. De plus en plus souvent, tu songes à Aix, non que tu regrettes l'école, mais les copains et les amis te manquent. Cette solidarité qui vous unissait. Lors des punitions collectives, aucun ne se serait avisé de dénoncer le coupable, et quand un colis arrivait, chacun dans sa chambrée recevait sa part. Cette exceptionnelle fraternité, tu l'as perdue. Et elle entretient en toi une lancinante, une inapaisable nostalgie. Ses copains et ses amis dispersés aux quatre coins de la France, voire expédiés à l'étranger, où se trouvent-ils? Comment vivent-ils leur nouvelle situation? Tout va-t-il bien pour eux? Plus aucun lien entre vous. Tu ne peux même pas leur écrire pour leur dire combien ils te manquent, combien tu les aimes. Tu veux écrire. Tu veux écrire, mais tu ignores tout de ce en quoi consiste l'écriture. De surcroît, tu n'as strictement aucune culture. Lorsque tu en prends conscience, tu es accablé et tu comprends que pendant des années, tu vas devoir faire des gammes et dévorer des centaines, peut-être des milliers de livres. Mais ce labeur à venir ne t'effraie pas. Tu as gardé ta mentalité de paysan. Avant de moissonner, d'abord labourer, hercer, semer, rouler, puis attendre que tournent les saisons. Et surtout ne pas perdre de vue que des calamités diverses peuvent compromettre la récolte. Mais tu es tenace, obstiné, et tu te promets que ce sillon que tu commences à ouvrir, tu l'ouvriras quoi qu'il arrive jusqu'à l'autre extrémité du champ. Tu as trouvé une librairie qui loue des livres et tu lui rends de fréquentes visites. Nulle personne pour guider tes pas dans cet immense continent des littératures. Tu te plonges au hasard dans des ouvrages de toutes sortes. Romans, pièces de théâtre, recueils de poèmes, essais, philosophies. Traduits souvent d'une langue étrangère. Tu as cette boulimie de l'autodidacte qui a honte de son ignorance et veut coûte que coûte en réduire l'étendue. Quand tu n'es plus à ta table, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu ne cesses de moudre des phrases dans ta tête. Mais lorsque tu veux écrire, des heures s'écoulent sans que tu puisses tracer un mot. Il n'empêche qu'en fin de journée, tu penses n'être pas resté inoccupé ou la tête vacante, ne serait-ce que quelques minutes. Tu veux ouvrir une petite brèche dans ce mur au pied duquel tu te trouves et qui t'écrase. Une jeune femme accepte de partager ta vie. Tu ne peux rien lui dire de qui tu es, de ton histoire, de ta difficulté à vivre, mais tu lui apprends que le besoin d'écrire t'habite et que, selon toute probabilité, il va régir ton existence. Tu ne sais même pas si tu as quelque talent, si tu auras quelque chose à dire, et tu prévois qu'il te faudra longuement travailler avant de pouvoir écrire un livre digne d'être publié. Tu la préviens que tu n'as aucune ambition sociale et qu'elle risque d'avoir à se priver, faire des sacrifices, mener une vie terne, dénuée de toute joie et de toute satisfaction. Elle te convainc pourtant de quitter ton poste de professeur et propose d'être seule à gagner votre pitance. Ainsi auras-tu tout ton temps à consacrer à l'écriture. Tu la mets en garde, explique que ton aventure peut s'achever sur un fiasco. Elle ne veut rien entendre et maintient sa décision. Qu'on puisse croire en toi, en tes possibilités, te bouleverse, déclenche une crise de larmes, te donne envie de disparaître et tu te reproches de n'avoir su la convaincre qu'elle commettait une grave erreur en pariant aveuglément sur ton avenir. Voilà donc pour ce soir la suite de ce texte de Charles-Juliette Lambeau que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.